Notre invité dans Liberté de Parole, François Chinour, que l'on retrouve avec plaisir. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Plaisir de vous recevoir pour évoquer un sujet qui est dans l'actualité et il va falloir nous expliquer pour quelles raisons vous vous êtes intéressé aussi à ce sujet qui est, alors avec un mot pas très facile à prononcer, procrastination. De quoi s'agit-il et pour quelles raisons donc vous êtes-vous intéressé, puisqu'on avait eu l'occasion déjà de se rencontrer pour d'autres sujets qui étaient, me semble-t-il, éloignés de celui-ci.
Alors, je me suis intéressée à la procrastination. Alors, d'une part, parce que c'est quelque chose qui est peu connu, ne serait-ce que le mot. Il est en France depuis 2005. Hein. C'est une expression venue des États-Unis et en France. Alors, ne me demandez pas, je parle tellement mal l'anglais que j'ose pas le répéter. Mais en France, ça donne procrastination. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu une journée sur la procrastination. Et sur les réseaux sociaux que nous connaissons tous, eh bien, j'ai vu que lorsque cette journée était annoncée, des personnes, dans leur liberté de parole, mettaient que ce serait bien que le même jour, que cette journée de procrastination, pardon, soit mise la journée de ceux qui sont surchargés de travail. Ça m'a interpellée et je me suis dit que les gens ne savaient pas ce qu'était la procrastination. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu apporter un petit peu de lumière là-dessus, parce que contrairement à ce que l'on croit, alors procrastiner déjà veut dire reporter intentionnellement de façon significative les choses au lendemain. Ça, c'est Pamela Brunner qui donne cette définition. Donc, c'est systématiquement, je remets à demain les choses. Mais la procrastination, c'est quand même une pathologie. Donc, c'est parce que c'est une pathologie que j'ai voulu en parler.
C'est intentionnel de remettre au lendemain, finalement, quelque chose que l'on peut faire le jour même.
Alors, si c'était intentionnel, ce mot, d'abord, n'existerait pas, puisqu'il définit remettre au lendemain, c'est systématiquement, les choses que l'on doit faire le jour même. Non, c'est pas intentionnel, ça cache quelque chose. Et c'est parce que ça cache quelque chose qu'il est important d'informer le public que en nous peut être caché un procrastinateur et il vaut mieux le reconnaître plutôt que dire oh là là ça va pas, je suis surchargé de tâches en ce moment, je fais pas parce que
c'est chronique. Est-ce qu'on peut dire que c'est chronique?
Un procrastinateur qui ne sait pas qu'il est atteint de cela, non seulement ça peut être chronique, mais ça peut devenir jusqu'à un état de dépressif, dépression nerveuse grave, et malheureusement, pour les cas désespérés, au suicide.
À ce point-là?
Oui, à ce point-là.
Comment ça arrive?
Alors, c'est insidieux. La procrastination est très insidieuse parce que il nous arrive tous de remettre au lendemain.
Parce qu'on n'a pas le temps.
Absolument. Ne serait-ce que ce matin, moi je suis partie sans faire mon lit, donc j'ai procrastiné. Hein, il faut 2 minutes pour faire un lit quand même. C'est pas énorme, mais voilà, j'ai procrastiné. Mais je sais que je n'ai pas fait mon lit. Et alors il y a une très grande différence entre cela. C'est un degré de procrastination qui est absolument mineure, à remettre à demain ou à tout à l'heure à faire mon lit, et à, par exemple, savoir que c'est le moment, la date butoir pour payer mes impôts, et puis le remettre à demain. Et puis demain, le remettre encore à demain. Et demain, le remettre encore à demain. Et lorsque l'on procrastine, on procrastine toujours sur des tâches qui nous coûtent.
Est-ce qu'on culpabilise?
Alors, le procrastinateur non seulement culpabilise, mais aussi est éreinté. Lorsque, à force de remettre à demain, les tâches s'accumulent, Hein, on peut remettre à demain le lit, on peut remettre à demain la vaisselle, on peut remettre à demain le ménage, le repassage, on peut remettre à demain de ranger son bureau au bureau, on peut remettre à demain d'envoyer des mails, de répondre à des SMS, de mettre des mots sur les réseaux sociaux, ou tout au moins ceux qui ont une page professionnelle, des tas de choses que l'on peut remettre à demain, ou au bout d'un moment... la personne se retrouve devant un Himalaya de tâches non faites et elle se lève le matin en se disant « Bon, aujourd'hui, c'est mon jour de repos, allez, j'y vais. » Et comme elle ne sait pas que la procrastination est véritablement un état insidieux qui montre qu'il y a un mal-être au fond d'elle, elle va faire exactement ce qu'elle fait d'habitude. Elle va commencer une tâche et puis hop, être interpellée vers une autre et hop, elle termine la tâche et hop, et hop, et hop, et faire ça toute la journée. Et à la fin de la journée, elle n'aura pas avancé d'un iota, mais se trouvera absolument fatiguée et en ayant l'impression d'avoir fait des choses. Alors peut-être qu'elle aura réussi à ranger qu'un seul tiroir dans toute sa maison, alors que ça fait un mois que la personne n'a pas pris soin de son intérieur, mais pour elle, ça aura été quelque chose de pharaonique parce qu'elle n'est entourée que de désordre ou que de choses en retard, une pile de papier très haute, du courrier qui n'est pas ouvert ou que sais-je encore. Hein. Donc c'est véritablement... ça peut devenir un vrai, vrai, vrai handicap. Il y a des gens qui peuvent se faire licencier pour cela. Il y a des gens qui divorcent. Hein, ça peut conduire aussi à un rejet social, à un rejet amical. Donc c'est important. On est tous à des degrés moindres des procrastinateurs. La toute première des choses, c'est je reconnais. Je suis procrastinatrice et alors, je ne vais pas être condamnée pour cela, mais le reconnaître, c'est acter en soi déjà la reconnaissance, c'est déjà mettre en mouvement quelque chose. Parce que la personne qui procrastine, à l'intérieur d'elle, est en totale inertie.
Alors, on va prendre peut-être que quelques exemples. Vous évoquiez le lit mal fait ou pas fait ce matin. On peut aussi se dire, demain je vais passer devant la poste, j'enverrai le courrier, plutôt que de faire la démarche aujourd'hui d'aller à la poste envoyer mon courrier, parce que aujourd'hui je vais créer le fait d'y aller, alors que demain je dois aller chez le médecin, je vais passer devant la poste. Est-ce que ça aussi c'est de la procrastination?
Non, je peux pas attribuer cet exemple-là à de la procrastination. Je l'attribuerais plutôt à de l'organisation. Hein? La personne qui procrastine, ce sont les tâches qui sont rédhibitoires qu'elle remet au lendemain. Quelqu'un qui envisage d'aller chez le médecin ou chez le pharmacien, admettons demain vendredi. Et en même temps dit le courrier que je devais poster aujourd'hui, je le poste demain, il n'est pas urgentissime, c'est correct. On est dans une organisation de temps. Le faire deux fois le même trajet au même endroit pour deux raisons différentes aurait pu être une perte de temps. Hein. Les procrastinateurs peuvent faire ça, par exemple. Aller à la poste, mettre leur courrier, et le lendemain se rendre à la pharmacie, et le surlendemain se rendre chez le médecin, et le surlendemain se re-rendre à la pharmacie. Enfin, c'est aussi de la procrastination. C'est un manque d'organisation de son temps, la procrastination. C'est véritablement avoir un planning.
Un manque d'organisation.
Tout à fait. En priorité, c'est un manque d'organisation, mais c'est également, je vous l'ai dit, c'est une souffrance intérieure. Il y a de la culpabilité, il y a également de la fatigue, et ça crée de l'inertie. Ce qui est important d'entendre, c'est qu'à partir du moment où la personne procrastine, c'est qu'en elle, il y a du découragement.
Un manque de confiance en soi.
Alors ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui procrastine, du reste, a un manque de confiance en lui. Il y a une forme de procrastination qui a été mise à jour et qui est malheureusement exacte, c'est quelqu'un qui remet sans cesse au lendemain quelque chose parce qu'elle ne sait pas faire ce qu'on lui demande. Mmh. Donc par peur de dire « je ne sais pas faire, est-ce que vous voulez me montrer ?» eh bien, elle va remettre systématiquement les choses au lendemain jusqu'à friser le licenciement ou que sais-je encore. Elle va se mettre en danger.
Quel est l'élément déclencheur alors de cette maladie? Est-ce qu'on peut considérer aussi que c'est une maladie?
Pour les personnes qui pour les personnes qui vont jusqu'au stade de la dépression, voire même aggravée, hein, bien sûr que l'on peut considérer que c'est
mais
une
ça,
maladie.
Mais ça, c'est extrême quand on en arrive à ce stade-là.
Oui, mais alors bien sûr c'est extrême, mais la procrastination, on a peu de personnes sur cette terre sont nées dans un berceau plein de pétales de roses et ont eu une enfance, une adolescence, des études extraordinaires. Alors des parents, bien sûr que tous nos parents sont extraordinaires, hein, ça n'est pas à remettre en question, mais on a tous reçu des griffes et des coups durs de la vie que l'on a, j'ai presque envie de vous dire, assumé dans l'instant, et puis on n'a pas l'impression que ça laisse des traces en nous-mêmes. Mmh. Mais le temps où l'hypercute était reçu, le temps de digérer les choses et le temps de se remettre en mouvement, il y a eu cette période d'inertie et il y a eu forcément de la procrastination. Ça veut dire que c'était déplaisant. Lorsque la personne va se retrouver, alors pas forcément dans la même situation, mais dans quelque chose qui fait appel à un effort, il faut qu'elle se force pour, parce que c'est déplaisant, parce qu'elle n'en a pas envie, la personne peut reprocrastiner. Donc ça sous-entend qu'au départ, il y a quand même eu un terrain avec des chocs.
Ces chocs-là qui sont les éléments déclencheurs. Ça peut être un choc familial,
tout
professionnel.
Tout à fait. Ça peut être un licenciement, ça peut être, la perte d'un être cher, ça peut être un divorce, ça peut être une tromperie, ça peut être de surprendre son mari ou sa femme dans le lit conjugal parce que c'est arrivé récemment à quelqu'un que je connais, alors pour le coup, non seulement a procrastiné, mais était complètement prostré. Ça induit cet état de je suis littéralement prostré, assommé là par ce qu'il m'arrive. Alors on peut avoir tout un tas d'événements, tous à certains niveaux, où on a tout d'un coup cet état-là, où on est prostré et on se demande comment on va faire pour se sortir de ce tsunami. Alors naturellement, il y en a beaucoup qui s'en sortent, mais une fois qu'ils en sont sortis, ils oublient qu'ils ont été
dans cet état-là.
Voilà, ils faisaient pas leur lit le matin, voire même il y en a qui zappaient la douche ou d'autres qui disaient c'est pas grave, j'ai pas mangé ou d'autres disaient j'ai des mails à répondre, j'ai pas envie. Donc ils collaient à cet état-là précédent et ils oublient. Mmh. Et lorsqu'ils se retrouvent devant une situation où on leur demande quelque chose qui va leur déplaire, qui va faire appel à quelque chose qui ne va pas apporter de plaisir dans leur propre existence, eh bien, les connexions neuronales vont aller rechercher ce système de procrastination et ils vont remettre au lendemain, alors en se trouvant plein de bonnes excuses, puisqu'ils ne savent pas qu'ils procrastinent.
Mais on a tous, dans notre vie ou dans notre quotidien, un moment où on n'a pas envie de faire un truc parce que ça nous déplaît, mais il faut le faire. Envoyer, par exemple, la feuille des impôts, on n'a pas envie de la faire, la remplir parce qu'on les reçoit en ce moment. On n'a pas envie de la faire, mais bon, il faut le faire. Alors, est-ce que ça peut être aussi assimilé à la procrastination?
Alors, ne pas avoir envie de faire quelque chose. Hier, moi, j'ai reçu mon appel de travailleur libéral, hein, mon appel de cotisation, et j'ai dit ah bon déjà,
ah bon encore. Mais oui, on n'a pas envie de le faire.
Oh, encore déjà. Voilà. C'est certain que J'avais pas envie de le faire, mais il est hors de question que je ne le fasse pas.
C'est obligatoire.
D'une part, c'est obligatoire et c'est de ma responsabilité. Ce que ça apportera à crescendo comme ennui, je n'ai pas du tout envie de me le faire vivre. Un procrastinateur, si vous voulez, ne va pas utiliser cette forme de raisonnement. C'est je remets à demain. Et il remet tellement au lendemain qu'il ne se rend pas compte que la date butoir est dépassée. Est dépassée. Et lorsqu'il reçoit le rappel avec les plus 10% à payer, la personne est en colère, archi étonnée, et elle a l'impression qu'il lui tombe une tuile nouvelle sur le dos. Et que c'est pas de sa faute.
Que le monde entier lui en veut.
Voilà, le monde entier lui en veut. Elle a franchement pas le temps. Elle est seule avec 3 enfants. Elle a été abandonnée par. Donc c'est pas de sa faute si elle a pas payé, etc., etc., quoi. C'est vraiment, vraiment... et c'est là pour ça que j'ai vraiment voulu parler de la procrastination pour bien interpeller le public, bien interpeller également les chefs d'entreprise, tous ceux et toutes celles du milieu thérapeutique, médical, mais aussi social, associatif, de dire lorsque quelqu'un est procrastinateur, c'est véritablement l'accompagner et lui donner des clés très simples pour que la personne se remette en mouvement. Parce qu'il est essentiel qu'un procrastinateur d'abord le reconnaisse, et ensuite, si c'est de petits degrés, simplement lui donner des clés pour se remettre en mouvement, ça va suffire. Si c'est un degré plus avancé, et que la personne commence à perdre confiance en elle, à se dévaloriser, bon, il faut un petit accompagnement. Si c'est plus grave dans ce cas-là, il faut un médecin dans son domaine de compétence, ça c'est clair. Mais que le public sache que la procrastination a des degrés et que lorsque ça amène vraiment des soucis dans notre vie, alors que ce sont des soucis que nous ne désirions pas, il est grand temps de tirer la sonnette d'alarme pour soi-même et de se faire aider.
Est-ce que cela touche toutes les couches de la population, la tranche d'âge, la couche sociale aussi, quel que soit son milieu ?
Oui, ça touche toutes les tranches d'âge, puisqu'il y a une forme de procrastination qui a été mise à jour, c'est la forme de procrastination intellectuelle. Et ça touche alors les enfants scolarisés jusqu'à ceux qui sont en fac, hein. Alors, procrastiner sur le plan intellectuel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire je fais mes devoirs et j'apprends mes leçons à la toute dernière minute. On a vu parfois des étudiants s'asseoir sur les marches de l'amphithéâtre. Le prof n'est pas encore rentré, ils ont 4 minutes montre en main et hop, ils griffonnent sur des feuilles blanche le cours qui est demandé pour dire je ne vais pas rendre feuille blanche, hein, tellement c'est fastidieux pour eux ça demande un effort qui est difficile. Ça ne veut pas dire qu'ils manquent d'intelligence, hein, loin s'en faut, mais bien ils procrastinent. Il y a aussi une autre forme de procrastination qui peut aussi induire de gros soucis. C'est la procrastination devant les prises de décision importantes. Alors, une prise de décision importante, ça peut être de dire à son patron, j'aimerais quitter mon emploi parce que j'ai envie de créer mon entreprise ou je ne sais trop quoi, ou je veux cesser mon entreprise parce que j'ai envie de me remettre sur le marché de l'emploi, dans les deux sens. Ou de demander en mariage l'homme ou la femme de sa vie, ou le sens contraire, divorcer, ou déménager, ou aller vivre dans un autre pays. Mais en tout cas, ce sont des décisions importantes qui vont donner une autre tournure à notre existence. Et ces prises de décisions importantes sont cachées par de la peur. Et la peur fait que la personne remet sans arrêt au lendemain. Alors, c'est un lendemain qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, avec des employés qui ont des arrêts de travail parce que ils en peuvent plus de se faire endurer. Ils ne se plaisent pas dans leur travail, mais ils disent, il faut que je travaille, il faut que j'y aille, mais ils ont des idées extraordinaires pour autre chose, mais ils n'osent pas le faire et ils procrastinent jusqu'où tomber malade ou jusqu'au licenciement. Voilà, c'est vraiment, faut faire très attention.
On parle du milieu professionnel, mais ça, je suppose, des conséquences aussi sur le milieu familial, sur l'entourage, les enfants, le conjoint.
Tout à fait. Un des plus grands procrastinateurs qui se méconnaît, c'est quelqu'un qui est toujours débordé de travail. On a tous autour de nous au moins une personne que l'on connaît qui est débordé de travail, qui a plus de travail que cette personne, et c'est ce qui m'avait interpellé sur ses réseaux sociaux, puisque il avait été mis que ce serait bien que le jour de la journée de la procrastination, on fasse aussi la journée des personnes qui ont trop de travail. Alors, merci à cette personne, puisque quelqu'un qui est surchargé de travail est obligé de procrastiner dans d'autres domaines. Je vais prendre l'exemple d'un chef d'entreprise qui se lève à 5 heures du matin pour aller tenir son entreprise, parce que j'en ai un là dans ma mémoire, qui arrive chez lui le soir à 21 heures. Eh bien, la maison ne tient pas toute seule, les enfants ne vont pas à l'école tout seuls, les enfants, faut bien qu'ils mangent, le linge, etc., etc., faut bien qu'ils mangent. Ils rentrent le soir, les pitchous sont couchés, et ça repose sur qui ? Essentiellement sur son épouse ou sur sa conjointe, et bien sûr qu'au bout d'un moment, ça va créer des tensions familiales. Les enfants peuvent avoir un relâchement au point de vue scolaire. Alors pour le coup, eux aussi procrastinent. Hein. C'est-à-dire que, à l'exemple du papa qui est surchargé de travail, eux, ils peuvent être surchargés de jeux. C'est-à-dire ne jamais avoir le temps pour faire leurs devoirs parce que leur console X et leur demande des points qu'il faut absolument qu'ils donnent ce soir, quoi. Ça peut faire miroir quand même, hein.
Mais on est tous surchargés de travail parce que on a tous beaucoup d'activités et donc c'est pas forcément non plus de la procrastination.
Il y a une différence entre être surchargé de travail parce que nous avons des activités plurielles et donc nous sommes obligatoirement organisés. Ça peut pas être autrement, hein. Et être surchargé de travail et compter sur les autres pour faire ce que nous n'aimons pas faire. Il y a une grande, grande, grande différence, cela. Bien sûr que nous sommes tous surchargés de travail, mais organisés aussi. Hein. C'est pas de la procrastination, là.
Comment se rend-on compte que l'on est procrastinateur ? Est-ce que c'est l'entourage ? Est-ce que c'est l'employeur qui nous met devant le fait accompli ? Est-ce qu'il y a un élément qui fait qu'à un moment donné, on le reconnaît ? Ou est-ce qu'il faut passer par une thérapie, par des soins, et on va l'aborder dans un instant ?
Alors, tout dépend le degré de procrastination. Lorsqu'on est atteint d'un degré mineur, comme là, moi, ce matin, je suis venu sans faire mon lit, c'est pas dramatique. Hein, je veux dire, mon mari va pas me fouetter ce soir. Hein,
c'est
pas
occasionnel,
dramatique.
C'est ça.
Voilà, c'est occasionnel, c'est pas dramatique. Et j'ai choisi de faire autre chose plutôt que de faire mon lit. Si c'est des exemples comme cela, bon, ça se reproduira. Je ne sais trop quand maintenant. C'est pas important. Mais par contre, si ça induit de la souffrance, de la fatigue, du découragement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si ça cache, je ne sais pas faire, mais je n'ose pas demander. Il vaut mieux faire appel à quelqu'un et en parler, aller voir son médecin traitant, pourquoi pas, ou aller voir un praticien, ou en parler à une amie qui peut être un bon conseilleur, ou pourquoi pas aller voir son DRH en disant je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, j'ai de la difficulté dans mon emploi, est-ce que l'on ne pourrait pas faire le point ensemble, voir ce qui va ou ce qui va pas. Mais rien que déjà le fait de le verbaliser à quelqu'un, la personne à qui elle fera appel pointera du doigt sur oui, c'est de la procrastination, le stade aussi où en est cette personne. Ça peut être, la personne peut avoir un énorme souci dans sa vie privée Et ce souci rejaillit absolument dans la vie professionnelle, sociale et que sais-je
ou
encore.
Inversement.
Ou inversement. Mmh. Et dans ce cas-là, il y a une procrastination. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, lorsqu'on a un choc, il y a obligatoirement de la procrastination quelque part, mais ça peut être corrigé. Voilà, le médecin ou la personne à qui elle s'adressera sera corrigée. Le plus important, c'est véritablement que la personne ne tombe pas dans une habitude qui n'en est pas une, qui est véritablement je suis vraiment procrastinateur, je suis immobile en moi. Alors immobile en soi, ça ne veut pas dire que la personne est inactive, ça ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas, hein, ça ne veut pas dire oui qu'elle n'est pas une personne active. Ça veut dire que qu'elle est active dans un domaine et que tous les autres domaines, là où elle est active, déjà ça lui tire tellement de jus, tellement d'énergie, que partout ailleurs, eh bien, elle est au bout du rouleau. Elle ne peut pas, elle n'a plus de jus pour agir. Donc quelqu'un qui en est à ce niveau-là, il est important qu'elle le reconnaisse, et il est important qu'elle dise, bon, ben, c'est pas grave, je suis procrastinatrice, c'est pas dramatique, je peux essayer de ben, soit d'aller voir un praticien, soit d'aller prendre des vitamines, soit d'aller me déstresser, mais au moins mettre fin à cet immobilisme, à cette énorme fatigue, à cette culpabilité. Mmh. Et ça peut aller vers une dévalorisation, je vous ai dit, et tomber dans la dépression nerveuse quand même.
Est-ce qu'il y a un traitement médicamenteux ou alors est-ce qu'il n'y a vraiment qu'une thérapie de dialogue ?
Alors, traitement médicamenteux, personnellement, je ne suis pas habilitée à répondre puisque je ne suis pas médecin. Donc voilà.
Vous pourriez en avoir connaissance.
voilà. Et ben, si on est dans le stade de déprime et de dépression nerveuse, vous pensez bien que c'est pas.
C'est vraiment le stade avancé, là, à ce moment-là.
Voilà. C'est vraiment le stade avancé. Donc, ça passe.
Par
ça peut
traitements.
Passer par la parole, mais
il faut des traitements.
Voilà, il faut des traitements, et ça, c'est au médecin de déterminer quel stade et quel traitement donner. Par contre, ça peut également passer par la parole et par des thérapies, dont celle que je pratique. Sinon, ben, je serais pas venue parler de la procrastination, puisque c'est quelque chose que je connais bien. Oui, et ça donne de très 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 bons résultats. Passer par la parole, libérer les émotions phagocytrices qui empêchent de repasser à l'action, et surtout en libérant ces émotions phagocytrices, en libérant cette énergie stagnante négative que l'on a en soi, on a ces merveilleuses connexions neuronales cognitives qui sont libérées, qui se remettent en route, et obligatoirement la personne se remet en mouvement. Voilà, c'est quand même important.
Vous évoquez les émotions phagocytriques, de quoi s'agit-il ?
Ça peut être la peur, en est une, le chagrin, en est une autre.
Un trop-plein d'émotions.
C'est cela, le manque de confiance en soi, on peut entraîner la culpabilité, toutes sortes d'émotions, la colère aussi, la rancune, toutes sortes d'émotions qui viennent mais véritablement miner la personne. Et vous savez, tant qu'on souffre, que ce soit physiquement, moralement, affectivement, ça tire tellement d'énergie que pendant ce temps-là, on a très peu d'énergie
pour faire autre chose.
Voilà, pour faire autre chose. Mmh. Et c'est sur ces énergies-là, parce qu'une émotion est une énergie, bloquée dans le corps physique, donc c'est en libérant ces émotions, la personne refait son taux d'énergie, son plus d'énergie, et obligatoirement va se remettre à l'action.
Comment se déroulent les séances que vous proposez ?
Alors, tout dépend. Parfois, j'ai en face moi des personnes où je vois elles ne vont pas, qui ont extrêmement peur, et la peur entraîne quelque chose d'assez paradoxal, entraîne la personne à maîtriser sa vie par le mental. Et tant que la personne est dans la maîtrise mentale de sa vie, c'est-à-dire que tout doit passer au crible de son regard, Il doit passer par elle parce que ça la sécurise. Il y a des formes thérapeutiques que j'emploie qui n'aboutiront pas. Par contre, je viens depuis 2 ans d'en ramener une des États-Unis, donnée par un merveilleux monsieur qui s'appelle Gary Douglas, qui est les BARS. Et les BARS, c'est un art thérapeutique de déprogrammation de 32 points que nous avons sur notre cerveau électrique et qui nous barre à agir dans ce que nous voulons créer. Et cet art de guérison et de libération énergétique, émotionnelle, se fait toute seule. Et ça squeeze le mental de la personne qui veut être sous contrôle, tout diriger, ça le squeeze, ça met la personne dans un grand état de bien-être, dans une grande relaxation, voire même une relaxation très très profonde. Et ce qu'il y a, c'est que les résultats se font spontanément et naturellement, puisque on est naturellement des êtres d'action. On est naturellement attiré vers la vie, on est naturellement positif, on est naturellement enclin à avoir envie. Dans le mot envie, il y a le mot vie. Donc les BARS sont un merveilleux outil pour les gens qui sont trop contrôlants. Après, il y a l'EFT, Emotional Freedom Technique. Là aussi, c'est extraordinaire puisque la personne participe à sa thérapie. Il y en a pour les sécuriser, d'avoir les mains sur eux dans le silence total, ça leur fait peur. Donc, de passer par une technique où ils vont être participatifs, ça les rassure. Donc, si je ressens que la personne a un doute et qu'elle n'a pas du tout envie de s'allonger sur ma table médicale et de recevoir un soin complètement muet pendant une heure de temps, eh bien dans ce cas-là, je la fais participer par les différentes techniques d'EFT ou de TAT. Le TAT est similaire à l'EFT, mais avec un spectre un petit peu plus large. Et après, il y a la psycho-énergétique, où il y a le temps de parole, ensuite le temps où de libération des énergies négatives dans le corps, et ensuite ce que j'appelle le débriefing, les messages qu'ont livré le corps, pourquoi l'énergie était bloquée, qu'est-ce que ça voulait dire à la personne positivement. Donc il y a des grands lâcher-prise qui se font, et la personne se remet en train relativement vite.
Mais il faut que ce soit pris assez tôt.
Tout à fait.
Lorsque éventuellement on s'en rend compte ou on nous aiguille vers cette situation.
Tout à fait. D'autant que si ça devient un état latent, enfin permanent, j'ai envie de dire, ça veut dire je suis quand même en déprime. Ensuite, je passe dans la dépression. Et puis, ceux qui sont au bout du rouleau, ça peut être conduit quand même au suicide. Donc c'est quand même important de ne pas négliger la procrastination. Par contre, pour les personnes qui sont des procrastinateurs à moindre degré, il existe des petites techniques, parce que il y a des fois, il y a des choses que l'on n'aime vraiment pas faire dans notre vie du quotidien, et on a tendance à procrastiner là, et on est obligé quand même de passer à la serpillière, on est obligé de passer à l'aspirateur,
de se rendre à son travail,
de se rendre au travail, de faire vérifier la pneumatique du véhicule et que sais-je encore. Voilà, c'est des choses que tout le monde n'aime pas faire. Enfin, dans tout ce que je viens de dire, il y a peut-être des choses que certaines personnes n'aiment pas faire. Et pour pouvoir le faire, mais sans que ce soit accumulé et sans que la personne, tu vois, j'en ai marre de cette maison, j'en ai marre de ce jardin, faut toujours désherber ou tout le temps tailler les haies. Et puis toutes ces saisons, ça pourrait pas être que l'hiver où il y a pas de feuilles, qu'est-ce que je serais tranquille. Pour ne pas arriver à des stades de découragement, il y a des petites choses extraordinaires que j'aime beaucoup. La première, c'est la clé des 2 minutes. Tout ce qui dans notre quotidien prend moins de 2 minutes, il faut le faire dans l'immédiateté. C'est un des moyens pour lutter contre la procrastination du quotidien. Une autre façon d'appliquer ces deux minutes, c'est toute tâche rédhibitoire dans l'instant. Eh bien, ok, je m'y mets et au timing, j'accorde 2 minutes, montre en main, à cette tâche. La personne, à partir du moment où je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est de se remettre en mouvement. C'est que les fonctions cognitives neuronales recréent du mouvement. À partir du moment où la personne dit « je m'ai accordé que 2 minutes à cette tâche-là », absorbée dans sa tâche, elle aura passé 1 heure et elle ne s'en sera pas rendue compte. Je vais parler de classement de courrier ou classement de papier ou d'écrire et que sais-je encore. À partir du moment où elle dit seulement 2 minutes, ça me sécurise 2 minutes, eh bien, ce sera mise en mouvement, ses connexions neuronales, cognitives iront chercher déjà les idées, les facilités de se mettre en mouvement et la personne finira sa tâche sans être fatiguée, sans être épuisée.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, François Chinour. On va dire un mot sur votre ouvrage. Vous étiez venu nous en parler, Oser être divin, qui marche très bien. Il y a eu des séances de dédicaces, notamment Marbeau, à Périgueux. Il y en aura d'autres sur Bergerac et au-delà. On peut toujours se procurer ce livre.
Oui, Oser être divin, c'est vraiment, il est très très bien accueilli par le public. Michel Géraud, propriétaire de la librairie Marbeau à Périgueux et de la librairie Montaigne à Bergerac, m'a fait vraiment l'honneur de m'organiser une dédicace avec 5 autres auteurs samedi. Le public était présent, le public est enchanté et j'ai de très très bonnes critiques sur mon livre d'or. Alors oui, on peut se procurer toujours Oser être divin à la librairie Marbeau à Périgueux et depuis lundi il est aussi à la librairie Montaigne à Bergerac, autrement également sur mon site ou directement à l'éditeur chez thebookedition.com.
Je vais vous laisser le soin de donner l'adresse du site internet pour celles et ceux qui éventuellement voudraient vous contacter.
Avec plaisir Pascal, merci de m'offrir cette occasion. Alors mon site c'est http://reikidor-nouvelle-terre.fr.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Avec plaisir Pascal, merci à vous.